universelle.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce micro. Dans moins de 5 minutes, le magazine de l'économie. Des failles dans le système de lutte contre le blanchiment et la restitution des avoirs volés, avertissent Sherpa et Transparency International.
Il faudrait définir une procédure, des institutions qui permettent de rendre l'argent, mais au bénéfice des populations, pas au bénéfice des dirigeants.
On va entendre Daniel Lebeg de Transparency International France. En Centrafrique, la mine d'or Ndassima, toujours contrôlée par les rebelles de l'ex-Leka, ce qui représente une lourde perte pour l'État. Et aux États-Unis, vendredi va marquer le début de la saison des achats de fin d'année, alors que les derniers chiffres montrent que la croissance se porte bien. L'actualité. De nouvelles émeutes en perspective dans la ville de Ferguson, c'est dans le Missouri, ici aux États-Unis, après la décision d'un grand jury de ne pas inculper un policier blanc qui a abattu un adolescent noir non armé au mois d'août. La décision annoncée hier soir a déclenché une nuit de violence inouïe qui a vu les manifestants piller des bâtiments et mettre feu aux voitures. En Afrique, dans le nord du Mali, le convoi du ministre de l'Agriculture Boukari Tétra, en mission dans la région, a été la cible d'une attaque terroriste entre Gao et Bourem. Un des véhicules de l'escorte a sauté sur une mine, bilan 2 morts et 9 blessés, tous des militaires maliens de Gao. Le reportage de Boubacar Touré.
Le ministre de l'Agriculture Boukari Tereta, à la tête d'une forte délégation, est arrivé hier dans la région en mission officielle qui l'a conduit à Ansongoum. Ce mardi matin donc, le ministre de l'Agriculture se rendait à Bourem, deuxième étape de sa mission. En route, l'un des véhicules de l'escorte saute sur une mine vers 10h heure locale, près de Tondibi, village de la commune de Taboy dans le cercle de Bourem. Le bilan varie d'une source à l'autre. D'aucuns parlent de 2 morts et 6 blessés. D'autres avancent un bilan de 2 morts, 9 blessés dont 2 graves, tous des militaires maliens. Les blessés ont été immédiatement admis à l'hôpital régional pour recevoir des soins. La mission du ministre a été alors annulée et la délégation a regagné la ville de Gao. Le village de Tondibi est situé à 40 km de Bourem où le vendredi dernier, un kamikaze s'est fait exploser sans faire de victimes. Les populations de la région sont de plus en plus inquiètes. Gao, Boubacar Touré pour La Voix de l'Amérique.
Au Niger, 12 personnes écrouées dans un trafic présumé de bébés ont été remises en liberté provisoire. 6 personnes, dont l'épouse de l'ancien président de l'Assemblée, Ama Amadou, n'ont pas bénéficié de cette mesure. Maître Souley Oumarou, avocat à Niamey.
Un événement extraordinaire. La plupart des femmes et des personnes incriminées de cette rocambolesque affaire ont aujourd'hui été libérées, à l'exception naturellement de Mme Ama Amadou, qui était l'une des premières à être arrêtée depuis le mois de juin, et naturellement en dehors de Hamma, contre lequel un mandat d'arrêt court toujours. Il y a également le colonel de la garde nationale et son épouse qui vient d'être arrêtée il y a 2 semaines, qui est également garde de prison, parce que l'instruction vient de commencer à en ce qui les concerne et qu'il n'a introduit aucune demande de liberté provisoire. Nous avons toujours dit et soutenu que l'objectif final était de chasser Hamma Amadou comme un mal propre de l'Assemblée nationale. C'est ce qui a été donc consommé hier à l'Assemblée. Et voilà qu'aujourd'hui, toutes les personnes, femmes et hommes, ont été mis en liberté provisoire. Ce que Mme Hamma a demandé et qui a lieu, cela a été refusé.
Voilà, Maître Souley Oumarou, avocat de l'épouse de Ama Amadou à Niamey. Manifestation des vendeurs d'eau à Abidjan, Côte d'Ivoire. Environ 200 vendeurs d'eau s'étaient rassemblés pour dénoncer l'interdiction de mini-doses d'eau vendues dans des sachets en plastique. La police est intervenue pour disperser la foule. Un homme a été arrêté et une dizaine d'autres ont été arrêtés également. En RDC, près de la frontière zambienne, 9 camions étaient en feu cet après-midi à Kasumbalesa, au lendemain du déclenchement d'un énorme incendie sur un parking douanier, selon l'AFP. Une cinquantaine d'autres camions ont été calcinés. Au moins 2 personnes ont été tuées et 10 autres brûlées lors de ce drame.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Voilà, on termine avec cette nouvelle. Le chef suprême de l'Iran a critiqué les États-Unis et ce qu'il appelle les puissances colonialistes européennes suite à l'échec des pourparlers sur le programme nucléaire iranien. Ils n'ont pas réussi à mettre l'Iran à genoux, a déclaré l'ayatollah Ali Khamenei. Cette réaction publiée sur son site web est la première depuis que Téhéran et le groupe 5+1 ont convenu de prolonger les négociations jusqu'au mois de juin 2015, faute d'un accord à Vienne. Vous écoutez VOA Afrique, place maintenant au magazine de l'économie. C'est avec Camille Gros-Didier.
Camille Grosdidier pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Les titres tout d'abord. Des failles subsistent dans le système de lutte contre le blanchiment et la restitution des avoirs volés, avertissent Sherpa et Transparency International.
Il faudrait définir une procédure, des institutions qui permettent de rendre l'argent, mais au bénéfice des populations, pas au bénéfice des dirigeants.
On entendra Daniel Lebègue de Transparency International France. En Centrafrique, la mine d'or de Ndassima, toujours contrôlée par les rebelles de l'ex-Séléka.
Nous travaillons seulement sous ordre des Séléka.
Le fait que la mine de Ndassima soit contrôlée par les rebelles représente une lourde perte pour l'État centrafricain. Et aux États-Unis, vendredi marquera le début de la saison des achats de fin d'année, alors que les derniers chiffres montrent que la croissance se porte bien. Une excellente nouvelle pour les États-Unis à l'approche des fêtes de fin d'année. La croissance de l'économie américaine au troisième trimestre a été plus forte qu'on ne le pensait en première estimation, ce qui suggère une amélioration des fondamentaux qui devrait soutenir l'économie jusqu'à la fin de 2014. Selon l'agence Reuters, la progression du produit intérieur brut, le PIB, a été revu à la hausse en deuxième estimation à plus 3,9% en rythme annualisé, contre 3,5% en première estimation, pour tenir compte d'ajustements à la hausse des dépenses des entreprises et des consommateurs. C'est ce que montrent les données publiées mardi par le département du commerce. Les indicateurs récents de l'activité manufacturière, de l'emploi et des ventes au détail suggèrent la poursuite de cette tendance. Les Américains fêtent cette semaine la Thanksgiving, la journée d'action de grâce, une fête nationale qui leur permet de se réunir autour de leur famille. Mais voilà, le lendemain de Thanksgiving, surnommé Vendredi Noir, est également le lancement de la saison des achats de fin d'année. Michel Joseph.
Les sondages d'intention d'achat restent positifs. Selon la National Retail Federation, en français, la Fédération nationale des vendeurs au détail, le chiffre d'affaires de la saison s'annonce légèrement supérieur à celui de 2013. Pour les centres commerciaux américains, la période des fêtes de fin d'année joue un rôle crucial. C'est d'elle que dépend l'avenir des commerçants pour le reste de l'année, puisqu'ils réalisent leur plus gros chiffre d'affaires en décembre. Les profits enregistrés ce mois-là leur permettent souvent de tenir le coup pour le reste de l'année. Mais l'optimisme de la Fédération nationale des vendeurs au détail est-il justifié? On écoute Cathy Granis, une responsable de la Fédération.
Right now, low gas prices, increased consumer confidence.
En ce moment, les prix de l'essence restent bas, la confiance des consommateurs est en hausse, l'emploi a augmenté. Très simplement, cela se traduit par davantage de fiches de paie. Donc, ces facteurs contribuent au fait que le consommateur a davantage confiance et reste financièrement stable, déclare Madame Granis. Selon le dernier sondage de la Fédération nationale des vendeurs au détail, les consommateurs américains auraient l'intention de dépenser en moyenne pour les fêtes environ 800 $, soit 5% de plus que l'année dernière. À noter que nombre d'Américains ne se presseront même pas dans les magasins, mais s'installeront plutôt devant leur ordinateur pour acheter en ligne, rappelle Ramesh Swamy, un analyste.
In total, digital, including social media, is going to influence 50 cents on every dollar spent in the store.
On s'attend à ce que les ventes en ligne connaissent cette année un nouvel essor, soit plus de 14% par rapport à 2013, c'est-à-dire environ 100 milliards de dollars entre fin novembre et fin décembre. Par ailleurs, les achats de cartes cadeaux devraient battre tous les records. Jusqu'à 31 milliards de dollars s'échangeront par ces cartes durant la saison des fêtes. Cela signifie-t-il que les magasins seront vides? Non, ils resteront toujours aussi bondés, affirme Michael Gregory de BMO Capital Markets.
There's nothing like going out in the holiday season and you know going shoulder to shoulder with the crowds as part of the experience.
Rien ne vaut l'ambiance des magasins pendant la saison des fêtes. Vous savez, un bain de foule. Ça fait partie de l'expérience. Je pense d'ailleurs que c'est la clé de cette saison et que les consommateurs veulent partager cette expérience.
Devant l'optimisme des consommateurs, certains magasins ont décidé de tricher et d'ouvrir leurs portes plus tôt que prévu. La Fédération nationale des vendeurs au détail pense que les ventes de fin d'année augmenteront de 4,1% d'ici à la fin décembre, soit un chiffre d'affaires de 617 milliards de dollars.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique, la voix de l'Amérique, ici Washington, Camille Grosdidier avec vous. La bonne gouvernance était à l'ordre du jour du récent sommet du G20, les 20 principales économies du monde, début novembre à Brisbane en Australie, notamment. La lutte contre la corruption qui reste un fléau à travers le monde. Mais de l'avis des militants en faveur de la bonne gouvernance, le communiqué final du G20 laissait beaucoup à désirer en la matière. Ces militants estiment que le G20 a perdu une occasion d'adopter des mesures plus efficaces et ils espèrent que cet oubli sera réparé, a déclaré Raymond Becke, président du groupe Global Financial Integrity, basé ici à Washington. Certes, d'énormes progrès ont été accomplis dans la lutte contre la corruption, reconnaissent les ONG Transparency International et Sherpa, mais il reste encore un défi de taille à relever. Comment restituer aux pays concernés les fonds détournés par la corruption ? Dans un nouveau rapport, Transparency et Sherpa exposent les failles du système de lutte contre le blanchiment et la restitution des avoirs volés. On écoute à ce sujet Daniel Lebeg, président de Transparency International France.
Nos associations anticorruption, Transparency et Sherpa, ont pu saisir la justice en France, et nous avons obtenu la désignation de juge d'instruction qui mène l'enquête. Donc ça, c'est un point positif. Deuxième point positif, les magistrats ont pu prendre des mesures conservatoires de saisie et de blocage de shell freeze, des avoirs et des biens concernés. Ça, ça a été fait. Mais il y a une troisième étape qui est indispensable. Et pour l'instant, elle n'est pas organisée ni en France, ni au niveau international.
Mais de quoi s'agit-il alors ?
Alors, la troisième étape, c'est la restitution. Rendre aux populations qui ont été victimes de ces détournements de fonds publics, leur rendre l'argent. Donc, comment fait-on dans notre pays et comment fait-on au plan international ? C'est particulièrement difficile lorsqu'il s'agit de rendre l'argent à des pays, à des États, où les dirigeants sont toujours en place. Ceux qui ont détourné l'argent public il y a des années, ils sont toujours chefs d'État ou ministres ou dirigeants d'entreprises publiques. Donc, on ne peut pas leur rendre l'argent à eux. On ne va pas rendre l'argent à M. Obiang en Guinée équatoriale dès lors que la justice aura considéré que cet argent a été volé, détourné. Donc il faut définir, mettre en place une procédure qui permettra de rendre l'argent public détourné au bénéfice des populations. Et pour l'instant, ni en Europe, ni aux États-Unis, ni ailleurs dans le monde, on ne dispose d'une procédure organisée pour rendre restituer l'argent qui a été détourné. Voilà ce qu'on a dit. Alors, comment peut-on faire? On pourrait imaginer de travailler avec des organisations internationales, les oui. Nations Unies.
Un fonds spécial pourrait être créé, peut-être.
Voilà. Il faudrait définir une procédure, des institutions qui permettent de rendre l'argent à cette recovery, mais au bénéfice des populations, pas au bénéfice des dirigeants.
A décrété un deuil national. Plusieurs milliers de personnes y pratiquent l'exploitation artisanale.
Et n'a pas pu démontrer.
Démocratique du Congo et a privé les victimes de justice. Dans un nouveau rapport publié lundi, Amnesty International présente des images satellites et d'autres éléments de preuve pour appuyer ses dires. D'autres précisions avec Deli Mawazo, chercheur sur la RDC à Amnesty International.
La compagnie, dans un premier temps, avait nié les démolitions des maisons des habitants habituels de Kawama et s'était borné à dire que seules les tentes ou les maisons passagères de trésors illégaux avaient été démolies. Ce n'est que plus tard qu'il y a quelques jours que la société a brièvement indiqué qu'elle ne réfutait plus les informations. Et donc, ça, c'est le premier élément du mensonge du groupe Forest International. Et le deuxième élément du mensonge du groupe Forest International vient du fait qu'il niait toute responsabilité dans la démolition et avait affirmé avoir été sous une contrainte irrésistible pour faire participer ses agents et ses engins dans la démolition. Mais Amnesty International a pu obtenir des preuves tangibles indiquant que non seulement la société n'avait pas pris les mesures adéquates pour dénoncer, parce que, pour rappel, les démolitions ont eu lieu le 24 et le 25, et que la société n'a pas pu protester et n'a pas pu démontrer qu'elle a pris des mesures pour éviter que ces agents et ces engins soient utilisés dans les démolitions illégales des maisons des habitants du Kawama. Et la deuxième chose est que le ressort du dossier qui a été instruit par le parquet de Lubumbashi, l'inspecteur général de Lubumbashi, que les chauffeurs des engins ont reconnu avoir reçu des ordres de la part de la société pour aller participer à la démolition des maisons des habitants et non pas des abris provisoires des creuseurs.
Amnesty International a pu rétablir la vérité à l'aide d'images satellitaires?
Non seulement à l'aide des images satellitaires, mais aussi à l'aide des centres sur terrain. Amnesty en a effectué plus ou moins trois. À Kawama même, a parlé aux victimes de démolition, a parlé aux autorités congolaises et a pu s'entretenir à plusieurs reprises avec le délégué de la société Groupe Forest International. Ce qui fait que Amnesty a pu confronter les différentes sources, a pu recevoir des communications de la part de la société. Et on a pu contrebalancer les allégations des uns et des autres. Et Amnesty soutient que la société a jusqu'ici menti.
5 ans après les faits, les habitants de Kawama n'ont toujours pas été indemnisés.
C'est regrettable et honteux de la part d'une société assez respectable comme le groupe Forest International. Même si elle s'est retirée des activités, mais ça fait 5 ans que les pauvres sociétés, population de Kawama ne parviennent plus à nouer le début du mois. D'autres n'ont même pas réussi à se reconstruire des maisons. Ceux qui ont perdu des affaires, leur business comme des hôtels, comme des maisons commerciales, n'ont pas réussi à reprendre. Nous avons visité les lieux, on a pu voir, par exemple, qu'il y a des femmes vivant seules qui ont 14, 15 enfants et qui ne savent plus les emmener à l'école parce que toute leur vie a été ruinée. Et nous demanderions au groupe Forest de bien vouloir indemniser ces victimes pour qu'elles puissent retrouver le train de vie normal. Ça fait 5 ans de douleur, 5 ans de dénuement. Indescriptible.
Monsieur Deli Marwazo, chercheur sur la République démocratique du Congo à Amnesty International, il était joint au Kenya. Selon l'Associated Press, le ministre congolais de l'Information, Lambert Mende, s'est dit surpris par le rapport d'Amnesty. Il aurait rappelé que ce n'est pas au gouvernement congolais de résoudre des désaccords entre les sociétés privées et des particuliers. Amnesty International ne peut pas être plus royaliste que le roi, a dit Monsieur Mende, toujours cité par la paix. L'ONG devrait laisser la justice faire son travail, a-t-il ajouté. Ici Washington, La Voix de l'Amérique, vous écoutez le magazine hebdomadaire de l'économie au micro Camille Gros-Didier pour VOA Afrique. L'exploitation de la mine d'or de Ndassima, propriété de la société canadienne Axmin, a été arrêtée en 2011 suite à l'insécurité croissante dans la zone. Par la suite, les rebelles de l'ex-Séléka se sont emparés du site qu'ils contrôlent à ce jour. Pour le gouvernement de Bangui, c'est un trou dans les caisses de l'État, signale notre correspondante en République centrafricaine, Katharina Hoidje. Le point avec Félix Yepasis Zembrou, qui reprend ici son reportage.
En 2013, un effondrement dans la mine de Ndassima avait fait une vingtaine de victimes, amenant le président de l'époque, le chef rebelle Michel Dotodia, à décréter un deuil national. Plusieurs milliers de personnes y pratiquent l'exploitation artisanale. Les autorités locales sont impuissantes. Ce sont les ex-rebelles Séléka qui achètent l'or, explique un mineur, Frédéric Ningando.
Nous sommes des habitants centrafricains, mais il n'y a pas de gouvernement maintenant. Nous travaillons seulement sous ordre des Séléka. Nous avons pêché là-bas à Briac pour venir ici chercher à manger. Ils sont ici encore. Il faut comprendre ce que nous sommes en train de dire.
Ningando a fui Briac en décembre 2012 pour échapper aux rebelles. À son arrivée à Ndassima, il les a retrouvés. Suite au retrait de l'armée centrafricaine du secteur, les Séléka se sont présentés comme les nouveaux protecteurs des prospecteurs. C'était pour profiter de leur labeur, affirme un commerçant, Ibrahim Kodégué, qui achète de l'or aux mineurs.
Là où nous sommes, les bailleurs ont plus crainte de venir. Ils ne peuvent pas venir sur le terrain. Mais nous annonçons que ces bailleurs-là n'aient pas de crainte et arrivent ici travailler avec nous, tellement pour payer de l'or et arriver et amener chez eux.
Les mineurs de Ndassima se rendent à Bambari, la localité la plus proche, pour vendre leur or à des Tchadiens ou des Soudanais qui ont remplacé les dealers venant de Bangui. Les ex-Séléka contrôlent la route menant à Bambari. Selon Kodégué, ils servent souvent d'intermédiaires tout en assurant la sécurité.
Ici, à la sécurité, je crois que le général Ali, avec qui on est ensemble au niveau de Bambari, il a pris la sécurité de la zone et il a envoyé des bases avancées ici qui nous permettent de travailler facilement, sans difficulté. Donc ici, on est stable, on est aisé, on n'a pas de difficultés, sans mentir. Mais c'est le problème d'argent seulement.
Il faut coopérer avec les Séléka jusqu'au retour de l'autorité centrale, ajoute Kodégué. À Bangui, les trafics de ressources naturelles ont un impact dévastateur sur le gouvernement intérimaire qui se trouve privé des revenus qui pourraient l'aider à rétablir son autorité. Les trafiquants sortent leurs minerais de la RCA, d'autant que l'État centrafricain perçoit une taxe à l'exportation de 12% sur les diamants, 3,2% en République démocratique du Congo et 5% au Congo-Brazzaville. Le Cameroun impose moins l'or que la Centrafrique. Les sociétés minières redoutent qu'avec l'intégration du Cameroun au sein du processus de Kimberley, la fraude n'augmente. En mai 2013, Bangui a été suspendu du processus de Kimberley, le système international de certification des diamants bruts. Les mineurs de Ndassima souffrent de cet embargo, mais le commerce se poursuit, ajoute-t-il.
Aujourd'hui, l'or, s'il n'y avait pas de l'or, notre vie devait être difficile. Nous sommes des citadins, on est des pauvres. On est obligés de nous rassembler entre nous, malgré toutes les difficultés, de nous rassembler, nous associer, nous unir, nous aimer entre nous, travailler en collaboration. En attendant, puisque ce sont des travaux artisanaux, ce ne sont pas des travaux industriels, ce sont des travaux artisanaux. Donc les acheteurs aussi sont artisanaux, ce sont des petites productions.
Impossible de prédire quand la société canadienne Axmin reviendra à Ndassima ou si elle reviendra. En dépit du déploiement en Centrafrique de soldats de maintien de la paix français et onusiens, la violence perdure. Par ailleurs, en septembre, une partie de la mine s'est effondrée, ensevelissant au moins 27 mineurs artisanaux. Depuis, la production a repris au péril des vies humaines.
Et pour finir cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie de VOA Afrique, eh bien, le prochain Einstein viendra-t-il de l'Afrique? Eh bien, c'est mathématiquement prouvé. L'affirmation peut étonner, mais Thierry Zomaoun en est convaincu. Il est le président de l'Institut africain des mathématiques, fondé en 2003 et implanté en Afrique du Sud, au Sénégal, au Ghana, au Cameroun et en Tanzanie. Il était de passage à Washington pour promouvoir la Next Einstein Initiative, un projet de construction de 15 centres de mathématiques à travers le continent africain d'ici à 2023. Il s'agit également d'identifier les meilleurs jeunes scientifiques africains qui seront à l'honneur lors du Forum scientifique mondial prévu à Dakar en 2015. Dans un entretien accordé à Jacques Aristide, il s'est dit persuadé que les sciences mathématiques aideront à relever les défis de l'Afrique, notamment au plan économique. On écoute Thierry Zomaoun.
Les sciences mathématiques sont une réponse claire au problème de chômage. Parce que quand vous êtes un mathématicien, vous avez les compétences qu'il faut pour créer. Compétences pour innover, compétences pour entreprendre dans tous les secteurs d'activité humaine. Environnement, banque, finance, santé. À l'Institut panafricain des sciences mathématiques, l'objectif, c'est de former des jeunes Africains capables de résoudre des problèmes, de les former à entreprendre. Au lieu d'attendre que le gouvernement et d'autres personnes leur donnent du boulot.
Le Next Einstein Initiative, parlez-nous de ce projet. Comment profite-t-il aux jeunes africaines et africains?
L'initiative vise à former une masse critique de jeunes leaders scientifiques africains. L'initiative vise à étendre sur le continent 15 centres d'excellence de haut niveau, de façon à ce que nous puissions préparer les conditions favorables pour que le prochain Einstein vienne du continent africain.
Et le prochain Einstein viendra du continent?
Absolument. C'est mathématiquement prouvé à cause de la démographie. En 2050, un jeune sur quatre sera africain. Pendant que beaucoup d'autres régions continentales sont en train de vieillir, l'Afrique comptera plus d'un milliard de jeunes. C'est le plus gros vivier de talents scientifiques et techniques disponibles pour l'Afrique, mais aussi pour l'humanité. Et donc, quand vous regardez la loi de la probabilité pour que le prochain Einstein vienne de l'Afrique est plus grande que le prochain Einstein vienne de l'Europe.
Quels sont les objectifs de votre déplacement à Washington?
Aux États-Unis, je suis à Washington pour rencontrer un certain nombre de partenaires avec qui nous sommes en train de parler et bâtir un grand partenariat à l'échelle continentale dans le domaine des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. J'ai aussi pris le temps de rencontrer certains responsables de la banque et du fonds ici à Washington pour discuter de l'avenir de la jeunesse, l'entrepreneuriat et des sciences mathématiques sur le continent. C'est l'une des principales alternatives qui s'offrent à l'Afrique aujourd'hui pour soutenir sa croissance actuelle, soutenir son développement, à l'image de ce que certains pays émergents sont en train d'accomplir. La Chine et l'Inde, le Brésil et la Russie ne seraient jamais arrivés là où ils en sont aujourd'hui sans les sciences mathématiques. Il n'y aurait jamais eu de révolution industrielle en Europe sans les sciences mathématiques. Il n'y aurait jamais eu de révolution, la révolution de Silicon Valley sans les sciences mathématiques. Il n'y aurait jamais eu de révolution numérique sans les sciences mathématiques. Et donc, l'Afrique n'est pas en train de réinventer la roue. Nous sommes simplement en train de faire ce que les autres ont fait de façon beaucoup plus créative.
Voilà, ainsi s'achève cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie de La Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Grosdidier pour VOA Afrique. Merci de nous avoir accompagnés.